N'arrête pas l'écho avec Préfonds Retraite. Découvrez maintenant tous les nouveaux avantages du PER Préfonds Retraite sur préfonds-retraite.fr.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter. C'est le dernier week-end de 2019. Il est 9h passées de 12 minutes. Vous retrouvez On n'arrête pas l'écho en compagnie d'Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue, dernière émission de 2019. C'est traditionnel, c'est le moment où nous vous racontons ce qu'on a vu et qui nous a plu, ce qu'on a lu et qu'autrement on n'aurait pas su, ce que vous allez pouvoir partager, de quoi discuter au dîner avant de passer à la nouvelle année. Oui, émission spéciale, l'économie et le social vu par les livres, les BD, les films et les docus. C'est parti.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et c'est avec toute l'équipe, bien sûr, le réalisateur Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez, à la technique ce matin, Tristan Gratalon est avec nous, et puis autour de la table, bien sûr, Sandrine Foulon, même dame vie au boulot. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Emmanuel Lechypre de BFM Business, bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Bonjour.
Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous deux invités, la réalisatrice du film Nouvelle Cordée, bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour.
La Nouvelle Cordée, ce sont ces chômeurs de longue durée qui retrouvent un CDI.
Oui, tout à fait.
Et vous avez filmé à Mauléon une expérimentation.
Oui, pendant 3 ans et demi.
Quel est le modèle économique de ces territoires qu'on appelle des territoires zéro chômeur? Ça fait rêver, hein. Ça paraît utopique. On
zéro
va voir.
Chômeur de longue durée.
De longue durée.
Ouais.
Merci à vous aussi, Thomas Huriez, d'être avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes entrepreneur, vous avez fondé la marque 1083. Ce sont des jeans qui ne sont pas fabriqués ailleurs. Et avec vous, on va voir à quelles conditions l'industrie peut renaître dans l'Hexagone. Là encore, on essaie de creuser l'espoir, on essaie de voir jusqu'où ça peut devenir réalité. Votre livre s'appelle « Remade in France ». Je ne sais pas si vous avez un pins, mais vous promettez aussi 1 million d'emplois.
Oui, alors le titre c'est « Remade en France ». On francise le « Remade in France », justement volontairement, pour le relocaliser aussi par les mots.
Et le clin d'œil à Pierre Gattaz, 1 million d'emplois, c'est volontaire?
Non, j'avais pas pensé au clin d'œil à Pierre Gattaz, mais c'est juste pour dire à quel point, en tant que consommateur, avec sa carte bleue, on peut changer l'emploi français.
Et on va donc commencer à parler de nos emplois, Thomas Huriez. Du boulot, comme dit Sandrine Foulon. Sandrine, le boulot, les emplois.
Oui, alors les emplois, eh bien, cette année, évidemment, cette année est marquée par plein de bouquins, plein de films qui traitent des transformations du travail, l'ubérisation évidemment, mais aussi la désindustrialisation dans certaines régions où il n'y a plus d'emplois. Le formidable « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu parle de ces Français qui essaient de trouver du travail dans des zones reléguées. Le chômage reste un thème fort de cette année qui s'achève.
Et donc, le documentaire de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée sur ces territoires zéro chômeur de longue durée. C'est donc un film. Vous nous le présentez, Sandrine?
Oui, alors, Marie-Monique Robin a eu la très bonne idée, très très bonne idée, de filmer l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, depuis le tout début. Alors, il faut juste dire que territoire zéro chômeur de longue durée, à l'origine, c'est une idée d'ATD Quart-Monde, puisque le chômage de longue durée coûte cher, en gros 18 000 euros par an et par personne. Il faut transférer cette somme vers des EBE. Alors les EBE, ce sont des entreprises à but d'emploi qui recrutent des chômeurs de longue durée en CDI sur 10 territoires pilotes. Et à Mauléon, mais les salariés de l'EBE, de l'entreprise à but d'emploi, ont appelé leur EBE les IAM.
Et les IAM, Marie-Monique Robin, ce qu'il faut dire, c'est que ces activités ne concurrencent pas les activités, par exemple le boulanger qui existe déjà, le pressing.
Oui, tout à fait. Donc la loi, il y a une loi qui permet cette expérimentation, qui a été votée à l'unanimité des deux chambres d'ailleurs fin 2015-2016, c'est important de le souligner, et elle est très claire. Il ne s'agit pas de créer des emplois pour détruire ceux qui existent déjà. Donc, il y a une clause de non-concurrence. Alors, évidemment, parfois, on est un petit peu sur le fil du rasoir, hein, par exemple. Dans mon film, on voit, par exemple, que Mauléon, c'est pas loin du Puy du Fou. Donc, il y a des gîtes ruraux, etc., des chambres d'hôtes. Et ils ont découvert que les propriétaires avaient besoin de faire laver leurs draps. Et ils ne trouvaient pas, parce que le pressing, en fait, ça l'intéresse pas, parce que c'est saisonnier, c'est très difficile, les délais sont courts. Donc, ils ont pris cette activité. Donc, aujourd'hui, le BE de Mauléon compte 90 salariés. Donc, tous
et quand vous êtes arrivé, il y en avait 15.
Oui, alors, moi, j'ai commencé à filmer 2 ans avant la loi. J'ai filmé des hommes et des femmes qui étaient au chômage, qui avaient tous 4-5 ans de chômage de longue durée derrière eux. Je les ai accompagnés pour faire du lobbying, que la loi passe, etc. Et recenser tous les besoins non satisfaits sur le territoire, parce que c'est ça, en fait, la clé de cette expérimentation. Tout ce qu'ils appellent les petits travaux utiles.
Alors, dites-nous un peu, ça peut ressembler, on le voit très bien dans votre film. Alors, donc, en effet, il lave les draps de cette chambre d'hôte.
De ces chambres d'hôte, mais par exemple, il y a 3 grands domaines. C'est tout ce qui est l'aide à la personne. Il y a énormément de besoins non satisfaits. Les personnes âgées, par exemple. Et donc, il ne faut pas que ce soit concurrentiel avec ce que font les associations, par exemple, dans ce domaine. Mais une personne âgée dans une maison de retraite qui veut aller chez un ophtalmologue à 5h30, eh bien, les associations qui proposent ce genre de service, elles s'arrêtent à 17h, par exemple. Voyez. Alors après, c'est tout ce qui est aussi le recyclage. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on découvre que les palettes mono-usage utilisées partout en France, elles sont broyées et enfouies. Eux, ils récupèrent ces palettes, ils en font une matière première et ils font avec des poulaillers pour les citoyens, des carrés potagers, des tables, des chaises, enfin plein de choses. C'est un atelier qui marche très bien. On découvre aussi que les fenêtres qui sont démontées en ce moment par les menuisiers partout en France, eh bien, elles sont aussi broyées et enfouies parce que c'est pas rentable de les recycler. Ils recyclent. C'est par le verre, le PVC, etc. etc. Donc, c'est tout ce qui est recyclage. Et puis, tout ce qui est évidemment entretien des espaces verts, biodiversité. Vous voyez? Donc, moi, ce que j'ai constaté, et c'était pas prévu au début, Moi, j'accompagne cette expérience. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si la loi va être votée. Je sais pas ce qu'ils vont faire au début. Effectivement, le 3 janvier 2017, ils sont 15. Ils savent même pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas une table, il n'y a pas une chaise. Enfin, c'est dingue, en fait, cette histoire. Et petit à petit, je vois se développer sous mes yeux ce que j'appelle vraiment un laboratoire d'innovation sociale et économique et écologique. En fait.
Qui se trouve en fait une vocation écologique. C'est pas écrit dès le début.
Non, ce n'est pas écrit.
On va écouter ces chômeurs de longue durée qui, au moment où vous les quittez, on est en quelle année au moment?
Alors, on est début décembre 2018, c'est-à-dire il y a un an. C'est là que j'ai arrêté de tourner, en fait. Voilà, donc il y a juste un an.
Et on va écouter ce qu'ils disent de leur ESIAM, donc de leur entreprise à but d'emploi qu'ils ont eux aussi bâti.
On est en train de développer quelque chose qui ressemble, oui, à un nouveau modèle à la fois écologique et économique. En disant aussi, non, on peut pas laisser les gens derrière soi, c'est pas des déchets. Moi, je suis pas un déchet. Je suis une valeur ajoutée au final. Même si je suis handicapé, je suis une valeur ajoutée. Je suis pas un déchet.
Si les IAM fermaient, c'est pas possible. Je veux pas. Non. Il en est hors de question.
Si les IAM fermaient, je pense que je pète un câble. Parce que je me vois mal retourner à 400 balles par mois. On sait pas comment on se retrouve au fond du trou, mais on sait qu'on y est. Et quand on en sort, on a surtout qu'une envie, c'est pas y retourner, quoi.
Je ne peux pas imaginer que les IAM ferment. Voilà. Et les IAM fermera pas, c'est pas possible. Celui qui ferme les IAM, il a rien compris, quoi.
C'est une philosophie de vie et un projet qui nous prend aux tripes, donc qui nous change aussi profondément.
Je voudrais dire aux politiques, il faudrait qu'il y en ait d'autres au BE dans toute la France.
Vous pouvez nous faire confiance. On travaille.
Nouvelle cordée, le film de Marie-Monique Robin. Sandrine, une question pour Marie-Monique Robin.
Oui, alors Philippe, Magali, Sébastien, vous les avez suivis pendant plus de 3 ans. On les voit se transformer physiquement. Qu'est-ce qui répare le plus, le travail, le collectif?
Alors, le travail et le CDI. Ben moi, j'ai jamais été au chômage de ma vie. J'ai vraiment compris que quand on est passé par ce cycle du chômage de longue durée, soit par un accident de la vie, soit par un accident du travail, ou de la route d'ailleurs, parce que ça rend handicapé parfois, et donc on a du mal à trouver du travail, eh bien le CDI, c'est ce qui permet de se reconstruire. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez raison, toute la solidarité qui va se créer finalement entre toutes ces personnes qui étaient très isolées, parce que chacune était dans sa précarité, donc ils se connaissaient même pas. Et là, eh bien, ils se sont mis à parler. D'ailleurs, vous voyez dans le film comment au début, ceux qui ne parlaient pas se mettent à parler. C'est très émouvant. En fait.
L'un d'entre eux vous a particulièrement touché. C'est ce monsieur qui dit « on travaille ». Peu de mots.
Parce que Philippe Gabé, parce qu'il y a plusieurs Philippe, donc je donne son nom, celui qui a le béret sur la tête dans le film. Au début, quand j'ai commencé à filmer en 2015, c'était des réunions de chômeurs et tout, il m'avait dit « tu peux me filmer, mais je parle pas ». C'était le souffre-douleur de la commune, disons ça comme ça. Il lui dit lui-même, j'étais considéré comme un cassos, c'est le terme qu'il emploie. Et un jour, au bout de 2 ans, il vient me voir, il me dit, je parle. Et c'est extraordinaire, quoi. Et lui, maintenant, c'est l'emblème, finalement, de cette entreprise, y compris pour les habitants de Boléon, qui, au début, évidemment, regardaient cette entreprise en se disant, c'est quoi, c'est encore des assistés, enfin, vous savez, toutes les idées reçues J'aime bien le petit bouquin de Thédé Carmon, vous savez, sur les 100 idées reçues, sur la pauvreté. L'une d'entre elles, c'est que ceux qui sont des chemins de longue durée, ben, c'est tous des feignants, ils ont pas envie de bosser, enfin, etc., etc.
Pauline, la coiffeuse.
Bon,
elle dit, mais moi, je pensais pas. Je pensais qu'il y avait du boulot, il suffisait de le vouloir, finalement.
Eh oui, évidemment, elle se retrouve avec un problème de santé, le bras qui est handicapé, donc elle peut plus faire son métier, elle découvre que finalement, voilà. Alors, c'est intéressant parce que, vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, quand il s'est lancé il y a un an, moi, j'avais appelé, évidemment, le maire de Mauléon et puis tous mes potes, j'allais dire, parce que évidemment au bout de 3 ans et demi, c'est devenu des copains, tous ces salariés de Lesiam, et c'est la seule ville des Deux-Sèvres où il n'y avait pas, il n'y a toujours pas de rond-point occupé.
Alors, c'est très intéressant comme expérience, mais 3 rapports, là, ont été publiés récemment, et ils critiquent enfin, pas tous, mais en tout cas, ils critiquent l'expérience qui coûterait plus cher que prévu. Est-ce que c'est un modèle viable? Ça marche à Mauléon, vous le montrez, mais est-ce que ça marche tous les autres territoires?
Alors, moi, je connais plusieurs autres territoires, hein. J'y suis allée à Villeurbanne, par exemple. Dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un quartier qui est aussi territoire zéro chômeur. On a le même développement, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires de ces EBE augmente. Mauléon, par exemple, 75 000 euros la première année, 200 000 euros il y a un an, et là 400 000 euros. Et là, récemment, j'ai rencontré le maire de Mauléon, on a fait une projection du film, il m'a dit, au rythme où vont les demandes des citoyens, hein, qui, avec tous ces besoins non satisfaits localement, on peut imaginer un chiffre d'affaires d'1 million sans problème. Donc ça veut dire que la part de l'État, à terme, se réduira d'autant, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérimentation. Il faut la continuer pour mesurer tout ça. Mesurer aussi les externalités positives. Vous parlez des rapports, mais les rapports de l'IGAS ne diraient pas un mot parce qu'ils savent pas mesurer ça. Quel est l'impact économique local de tous ces anciens chômeurs 90 qui consomment, qui achètent des scooters, qui partent en vacances, qui achètent des apparts même maintenant, vous voyez, voilà. Ou l'impact sanitaire, par exemple.
Ça veut dire qu'ils sont plus malades, hein. C'est...
Oui, bah oui, on le voit déjà parce que moi, les deux alcooliques du film ne le sont plus déjà. Enfin, je veux dire, ceux qui alcooliques ne le sont plus. Donc, les enfants du papa qui a perdu sa femme vont mieux. Enfin, et donc, c'est le problème des outils pour mesurer la richesse et la richesse, comment on la mesure, et qu'est-ce qui compte, comment on compte, vous voyez. Donc, et je pense que ça vaut le coup de continuer parce que ça contribue aussi à cette réflexion sur les mesures de la richesse.
Bon, vous restez avec nous, Marie-Monique Robin. Ça, c'était la part d'espoir, le territoire zéro, chômeur de longue durée. Mais sinon, Sandrine, c'est quand même une part, une vision assez sombre du travail que nous renvoie le cinéma.
Oui, cette année, c'est assez sombre. Alors, moi, je voulais parler d'un très bon film, Ceux qui travaillent, d'Antoine Rusbach. C'est un premier film très réussi, très glaçant, qui met en scène un cadre, Olivier Gourmet, formidable Olivier Gourmet, qui travaille dans le fret maritime. Alors lui, il gère tout à distance, c'est très désincarné. En fait, c'est un homme, il s'est fait tout seul, il est autodidacte, il n'existe en fait que par le travail, et puis il va prendre une décision humainement terrible. Sa direction va en profiter pour le licencier. Ce film, c'est un peu l'anti-Ken Loach ou un peu l'anti-Robert Guédiguian, parce qu'en fait, dans les films de Loach ou de Guédiguian, les personnages sont intrinsèquement bons, c'est-à-dire qu'ils sont poussés à mal se comporter parce qu'ils sont mis en concurrence par un système capitaliste.
Bon, ça c'est Sorry We Missed You, oui. C'est le film de Ken Loach sur l'ubérisation.
Oui, exactement.
Vous l'avez vu, Marie-Monique?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Moi, non.
C'est vraiment l'opposé de Nouvelle Corde. Enfin, je veux dire, il y a même dans des salles de cinéma des gens qui me disent, on a vu les deux films. Et voilà,
c'est d'ailleurs, le film de Ken Loach, Sandrine, je crois que c'est Libération qui a titré...
Premier de corvée.
Premier de corvée. Voilà,
mais ce qui est intéressant dans le film d'Antoine Rusbach, c'est que lui, il interroge nos décisions personnelles. Olivier Gourmet, il est à la fois victime et bourreau du système, et c'est ça qui est un peu dérangeant.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Eh ben, on parlait d'ubérisation avec le film de Ken Loach. On va continuer à parler de colis à livrer cette année. Emmanuel Lechypre, nous avons eu 2 enquêtes sur Amazon. Amazon m'embasse sur le futur. Ça, c'est l'enquête de Vincent Maillet aux éditions Robert Laffont avec une préface de Yannick Bolloré. Et puis le deuxième livre, c'est Le monde selon Amazon. 3 ans d'enquête de Benoît Berthelot aux éditions du Cherche Midi. Qu'en avez-vous pensé?
Oui, alors c'est 2 livres, au fond, qui sont pas si différents que ça l'un de l'autre parce qu'ils racontent la même histoire, mais alors sans doute avec un regard un peu trop admiratif de la part de Vincent Maillet et puis un regard un peu trop critique et naïvement critique sans doute de la part de Benoît Berthelot, parce que au cœur de ce livre il y a évidemment une histoire absolument incroyable qui est l'histoire d'un type hors norme qui est Jeff Bezos, qui est quand même quelqu'un qui commence en fondant en 94 une petite librairie en ligne et qui aujourd'hui pèse 840 milliards de dollars de capitalisation boursière, 550 000 employés et qui va sans doute envoyer des fusées voire des gens sur la Lune. Donc c'est le parcours d'un homme exceptionnel. Alors Alors après, vous avez la description d'un côté de quand même ce que c'est que cette formidable machine logistique qu'est Amazon, et puis la façon dont effectivement, en maîtrisant, parce que c'est l'autre facette, c'est la maîtrise absolue et l'innovation de pointe sur tout ce qui est algorithme, où effectivement ils apprennent à connaître les clients, etc. Donc on voit l'entreprise, on arrive à s'en faire une idée assez fiable, sachant que la vérité est sans doute entre les deux.
Et il faut lire les deux, ou si vous
non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de lire les deux. Je pense pas. Non, c'est pas la peine de lire les deux. Bah, Berthelot, on est dans la
fibre classique. Ça, c'est le monde selon Amazon, trois ans d'enquête.
De tous ces auteurs qui critiquent les grandes entreprises, etc. Qui
non, disent, pas du tout, pas du tout.
Alors Christian Chavagneux,
c'est trois ans d'enquête sur deux axes. Le premier, c'est Jeff Bezos, notre ami Jeff Bezos, quand même, qui a créé une entreprise avec une organisation très hiérarchique. Il y a du burn-out à tous les étages. Chaque salarié doit surveiller les autres salariés. C'est pas quand même un personnage très très sympathique en tout cas.
Non, mais c'est pas
comme ça qu'il ressort du livre. Et puis deuxième axe des trois ans d'enquête, c'est qu'est-ce que c'est que cette entreprise? C'est une place de marché. Quand vous faites le total, nous dit Berthelot, vous laissez quand même 30% de sa marge à Amazon. Bon, c'est quand même pas rien. Côté livraison, ils ont développé non seulement du fret maritime mais des avions. Et du coup, on arrive à la fin du bouquin qui est-ce que cette entreprise va durer? C'est même Jeff Bezos qui dit une entreprise comme celle que j'ai créée peut durer 25-30 ans, environ 30 ans, ça nous met vers 2025-2030. Pourquoi?
Pourquoi ne pourrait pas durer Amazon? Elle a l'air toute puissante aujourd'hui.
Parce que l'impact environnemental est très négatif, parce qu'il y a du gaspillage, parce qu'ils développent des technologies de reconnaissance faciale. Et les salariés d'Amazon commencent à dire c'est quand même pas génial. On travaillait pour un libraire, maintenant on travaille pour les Chinois et contre la démocratie dans le monde. C'est pas super. Et puis le comportement fiscal douteux des GAFA quand même est largement remis en cause. Donc voilà, peut-être qu'Amazon va
non,
pas.
Non, mais ça
durer.
Fait toujours partie de ces auteurs qui pensent qu'en fait les coupables, c'est les entrepreneurs, alors qu'en fait les coupables, c'est les régulateurs, c'est autour. C'est-à-dire le sujet, c'est pas lui, Jeff Bezos, c'est normal qu'il cherche à développer son entreprise et qu'il cherche à mettre en œuvre ses
en
idées.
En dehors des règles.
Ce qui est pas non, mais justement, ce qui est pas normal, c'est qu'effectivement, il y ait personne pour l'empêcher de faire ce qu'il fait si on trouve que ce qu'il fait est critiquable.
Donc vous pensez, Emmanuel, qu'en fait la régulation, elle a fait son boulot. Christian nous dit non.
Ah non, moi je dis les reproches qu'il faut faire à Amazon, c'est pas par rapport à la philosophie de Jeff Bezos, c'est pas ça qu'il faut lui reprocher. Ce qu'il faut lui reprocher, éventuellement, c'est que l'entreprise est pas contrôlée comme il faudrait ou qu'il n'y a pas les contre-fous, les contrepoints réglementaires, fiscaux, etc.
Les contre-fous, c'est pas mal.
Les contre-fous,
c'est pas mal, ouais.
C'est notre lapsus, 2019. Thomas Huriez.
Oui, non, c'est une drôle de façon de penser. C'est comme si.
C'est Emmanuel Lechypre que vous trouvez bizarre, nous.
Oui, enfin, non, pas bizarre, mais c'est comme si vous disiez, ben tiens, je me suis fait cambrioler, c'est de la faute de la police qui n'est pas intervenue. C'est quand même le voleur qui a fait le choix de nous cambrioler. Et donc Amazon, ils peuvent être en dehors de clous parfois, mais ça peut pas être de la faute que du régulateur.
Ouais, mais sauf qu'Amazon, ils volent personne. Attendez, si vous êtes pas obligé d'être client d'Amazon, ils payent les impôts où ils doivent les payer.
Non mais ils sont responsables.
Non, y a pas de, mais si, mais il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de trucs illégaux.
Au sens où ils sont responsables de ce qu'ils font. C'est, leur responsabilité n'est pas que celle du législateur.
Est-ce qu'un entrepreneur qui crée des jeans à Romans-sur-Isère 1083, est-ce qu'il peut se passer d'Amazon pour vendre, Thomas?
Ah oui, Huriez. On se passe d'Amazon à 100%.
On se passe d'Amazon, de Google,
Alors, Amazon, oui, Google, Facebook, un peu moins. Mais quand on est dans le e-commerce, en France ou partout dans le monde même, je dirais, généralement consacre 15 à 20% de son chiffre d'affaires à la publicité sur Facebook et sur Google pour recruter de nouveaux clients et développer sa communauté. Dans notre cas, c'est pas ce qu'on a choisi. Nous, on est super transparent, on dit tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait. Grâce à ça, on surengage notre communauté qui parle d'elle-même sans qu'on paye Facebook et sans qu'on paye Google de nous.
Alors, et là, vous nous racontez votre histoire dans ce livre qui s'appelle Remade, et vous avez raison, en France, c'est publié aux éditions Duno. Thomas Huriez, le jean made en France, ça paraît être un oxymore, ça va pas ensemble. D'ailleurs, avec Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre, nous sommes allés à Citeco, vous vous souvenez, Emmanuel?
Exactement.
Au musée de l'économie. Et le symbole de la mondialisation, c'était le jean, en fait. La chaîne de production qui est éclatée partout, le coton cultivé ici, le tissage, la teinture, voilà, les boutons qui sont faits encore ailleurs. Moi, j'aimerais savoir ce qui est fait exactement en France dans vos jeans, Thomas Huriez.
Pour fabriquer un jean, il y a 8 étapes. La culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage. En 6 ans, sur ces 8 étapes, on en a relocalisé 7. Il n'y a que la culture du coton qu'on n'a pas encore réussi à relocaliser en France. Alors on a deux stratégies pour le faire. Soit continuer
le réchauffement climatique.
Soit le réchauffement climatique, voilà. Et si on est un peu patient, bientôt on pourra cultiver du coton en France. On espère l'éviter. L'autre solution, c'est de collecter les tonnes et tonnes de coton qu'il y a dans nos vieux vêtements et qui vont à la poubelle pour l'instant. Comme le vêtement, c'est juste une construction mécanique de coton, bien organisée.
C'est de la trame et c'est ça, c'est des fibres
voilà,
de coton.
C'est des fibres de coton qui sont torsadées entre elles et qui sont tissées entre elles pour former des jeans, des vêtements, des pulls, etc. Et du coup, si on défait mécaniquement ce processus, et ben on retrouve le coton originel. Et donc nous, on a développé une technologie pour y arriver dans les Vosges. Et grâce à ça, en 2020, on sera producteur de coton, non pas grâce à l'agriculture, mais grâce au recyclage.
À l'économie circulaire,
exactement.
En fait. Alors, où est-ce que vous... Là, vous venez de nous parler des Vosges. Moi, j'ai parlé aux auditeurs de Romans-sur-Isère. Vous nous faites la photographie de votre entreprise ?
Oui, donc le coton est importé. Beaucoup de Tanzanie, c'est du coton bio. Ensuite, il est filé dans les Vosges. Après la filature, l'étape de teinture, qui se fait soit dans le nord de la France, soit dans la Loire, soit un petit peu tout au nord de l'Espagne, à la frontière française, juste derrière, pour la teinture indigo. Ensuite, c'est tissé dans la Loire ou dans les Vosges. Ensuite, c'est coupé dans les ateliers de confection à Marseille, à Bobigny, à Romans et bientôt à Calais. Cousu sur place et délavé à Romans, où on a une machine laser pour délaver sans sablage, sans chimie et sans eau.
Donc vous aussi une chaîne de production éclatée, mais en France finalement.
Oui, on parle en centaines de kilomètres chez nous, contrairement au jean conventionnel où on parle en dizaines de milliers de kilomètres.
Christian Chavagneux.
Oui, moi j'ai adoré le livre parce que c'est vraiment une aventure entrepreneuriale enthousiasmante avec un message industriel, un message financier, un message écologique. Industriel, on peut recréer une nouvelle industrie en France pratiquement, on l'a dit, 7 étapes sur 8, pratiquement 100% française. Le livre montre la quête, voire l'enquête pour retrouver les gens, l'atelier de confection, la vieille machine, les gens qui sont capables, encore une fois, de produire des jeans alors qu'on avait perdu complètement ça en France. Le coût du travail, tout de suite Alexandra, vous avez pointé, oh, mais le coût du travail, c'est bien plus cher de le faire en France. Oui, c'est bien plus cher, mais les marges de distribution reviennent, nous dit Thomas Hériez, à peu près aux marges de distribution des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, on revient sur de 2 à 4 fois ce que ça coûte, alors que les grandes marques multiplient par 8 à 12. Voilà, avec un coût de distribution un peu plus sérieux, on peut faire du jean en France plus cher, mais en restant dans des prix abordables. Le deuxième message, il est financier. J'ai beaucoup aimé la partie où il dit, bon, ok, au début, j'ai fait un peu de financement participatif. Les gens achetaient sur le site. Du coup, ils me préachetaient mes jeans et je les produisais que si j'avais des clients. Et puis après, pour se développer, bah, j'ai besoin soit des banques, soit des fonds d'investissement. Et par exemple, on a en France la fameuse banque publique d'investissement qui met du capital.
La BPI.
La BPI dans toutes les entreprises qui veulent se développer. Mais Thomas Hériez nous dit, attendez, si mon entreprise, elle se développe et qu'elle marche bien, à un moment donné, la BPI va pas rester ad vitam aeternam, elle va sortir. Et là, est-ce que je peux racheter les parts de la BPI? Mais si mon entreprise a bien marché, ça va coûter très très cher. Donc attention, je veux des fonds d'investissement qui restent très très longtemps. Et enfin, le message écolo, une filière d'économie circulaire. On a vu, il essaye maintenant de reprendre les jambes de jean, de les détricoter, de prendre le coton pour refaire. Pas encore, hein, nous dit le livre, on n'en est pas là, mais on y arrive. Et puis, l'innovation, le jean consigné.
Ah bah attendez, on va lui raconter pas tout, on va donner l'occasion à Thomas Hériez de nous dire.
Et puis la création, j'ai bien aimé, d'un observatoire du jean, quand même pour surveiller que les autres qui disent qu'ils sont écolos font pas trop de greenwashing. Et donc, ils surveillent quand même les concurrents. Et tout ça est magnifiquement raconté. Généralement, les chefs d'entreprise, ils se font écrire leur bouquin, je lui ai demandé. C'est lui qui a écrit le livre, donc vraiment doublement chapeau parce que ça se lit très bien.
Donc Thomas Hériez, vous avez écrit votre livre et en plus, vous n'êtes pas du tout dans une famille de commerçants ou d'acteurs de la mode. Vous êtes à la base un informaticien.
Moi, j'ai un DUT Télécom et Réseau. Ma maman est médecin du travail. Mon papa était fonctionnaire et travaillait dans une fac de médecine. Et effectivement, j'ai écrit le livre. En fait, quand on fait du e-commerce comme ça, qu'on développe sa marque, on travaille beaucoup avec sa communauté. Donc, moi, je suis habitué à écrire sur le blog. J'ai écrit sur les réseaux sociaux. Jusqu'en avril dernier, c'est moi qui écrivais tous les posts Facebook, Instagram. Donc, en fait, j'aime écrire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure du livre.
Vous le faites bien.
Et donc, la finance, est-ce que c'est votre ennemi à vous ou pas?
Non, c'est un partenaire de l'entreprise. Simplement, le sujet, c'est toujours la dose. En fait, le poison, c'est tout le temps la dose dans la vie. Et en fait, la finance, si on veut qu'elle ne capte pas trop des richesses qui sont produites dans l'économie réelle, eh ben, il faut peut-être un peu plus la réguler, à mon sens. Et surtout, les amener à penser service et plus penser spéculation. Les fonds d'investissement sont essentiels au développement des entreprises.
Vous avez qui alors?
Nous, on a INCO, c'est un fonds impact, donc un fonds éthique. On a le Crédit Agricole, la branche locale, et on a Terre et Fils, c'est une fondation
éthique aussi.
Éthique
hein.
aussi. Ouais. Donc on essaie vraiment d'avoir des partenaires financiers éthiques, mais ce que l'on voit, c'est que nos banques conventionnelles, avec lesquelles on travaille, s'intéressent à ces schémas-là, parce que ces banquiers, aussi professionnels soient-ils, ils ont un petit cerveau et un petit cœur comme tout le monde, et eux aussi, ils ont besoin de sens dans leur boulot. Donc du coup, on voit que en faisant l'élastique entre l'économie réelle et puis l'économie sociale et solidaire, eh ben, on amène chacun de manière pragmatique, à se rapprocher d'un élément de motivation hyper puissant, d'où qu'on vienne, c'est le sens.
Et vous sentez que là, on est à un moment de bascule. Vous avez l'impression que sur le territoire, il y a, ce que vous citez hein, dans votre livre, vous les faites même intervenir. Il y a beaucoup de petites encore, hein, entreprises comme la vôtre, qui veulent impliquer le consommateur, qui veulent du sens, qui rognent sur leur marge. Finalement, c'est ça le secret.
Oui, mais le marché est plus fort que tout. Deux éléments pour le constater. Enfin, trois éléments. Les petites marques, effectivement, qui émergent et qui commencent à être crédibles. Deuxième élément, toutes les grandes marques qui surcommuniquent sur l'éthique, le made in France, l'écologie, etc. et qui le font pas par conviction, qui le font parce que le marché le demande. Et le troisième élément, c'est notre communauté qui est hyper engagée. Là, on lance ces derniers jours un emprunt participatif. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients de placer leur épargne directement dans notre entreprise en rémunérant leur épargne pour nous aider à financer notre croissance réelle. Et on voit que ça prend. Donc vraiment, tout le monde est prêt à s'engager directement dans une économie durable.
Marie-Monique Robin.
Alors moi, je trouve cette histoire géniale. Ça fait...
Vous la connaissiez, vous?
Oui, parce qu'on s'est rencontrés, on ne sait plus où d'ailleurs, la première fois, une émission de radio, enfin il y a 2 ou 3 ans, mais au début, voilà, il fallait commander sur Internet. Bon, maintenant, je suis contente de savoir qu'on peut essayer les jeans, parce que quand même... Voilà. Mais moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'un jean qu'on achète, qui vient de Chine, moi, une fois, j'avais calculé, je ne sais plus en me fondant, je ne sais plus sur quoi, mais en tout cas, c'est l'équivalent de 67 000 kilomètres en voiture, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous parlez des boutons qui viennent d'Afrique, je sais plus, il y avait toute une filière, ça passe par la Turquie pour le...
Oui, voilà, c'est ça, la chaîne de produits. Et la 1083...
67 000 kilomètres en voiture, l'équivalent, vous rendez compte.
Et là, ça s'appelle 1083 Thomas Huriez, ouais. Parce que... Je l'ai pas dit.
Parce que tout est fabriqué à moins de 1083 kilomètres.
De chez moi, de
chez vous, si vous habitez en France. Ouais. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone.
Et Thomas Huriez, pourquoi est-ce que vous me promettez 1 million d'emplois? C'est-à-dire, vous espérez reconstruire la filière, mais à quelles conditions?
Mais en fait, nous, on a vendu 40 000 jeans en 2019, ce qui est énorme pour nous, parce que j'espère en vendre 100 en 2013. Donc en fait, en 6 ans, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est une goutte d'eau sur le marché français, parce que chaque année, tous ensemble, les Français, on achète 88 millions de jeans. Donc 40 000 sur 88 millions, c'est pas grand-chose. Pour autant, avec ces 40 000 jeans, on a créé 150 emplois déjà en France. Donc vous faites
direct, indirect chez vous seulement
Direct et indirect. Nous, chez nous, en propre, 70. Plus 70 en 6 ans grâce aux commandes de nos clients. Et du coup, si on fait une règle de 3 avec les 88 millions de jeans et qu'on ajoute les centaines de millions de paires de chaussures, de t-shirts, etc., très rapidement, on arrive au 1 million. Et 1 million, c'est un minimum en réalité.
Alors, en quelques mots, la suite de l'aventure, Christian en a parlé, vous voulez consigner les jeans. Alors ça, il faut nous raconter.
Ben dans l'économie, en fait, le metteur en marché n'est pas réellement comptable des produits qu'il met sur le marché. C'est-à-dire que si je veux vendre des microphones, comme celui dans lequel je parle, et ben en fait, quelle que soit la manière dont je le conçois, bien ou mal, finalement, je n'aurai pas en tant que marque à assumer la fin de vie du produit. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça ne responsabilise personne. Alors que grâce à la consigne, ce micro reste de ma responsabilité et du coup, s'il me revient, je vais devoir supporter le coût de sa dépollution.
Donc vous voulez qu'on vous achète des jeans et puis ensuite qu'on vous les ramène.
Exactement. Et donc pour ça, ça nous engage, nous, fabricants de jeans, à faire un jean que l'on est capable de recycler. Donc on le conçoit dès le début pour qu'il soit facilement recyclé. Et donc on a lancé le jean Infini cet été. C'est un jean monomatière, 100% polyester recyclé, c'est des bouteilles plastiques et des déchets de mer, qui est donc composé à 100% de cette matière-là, ce qui fait qu'il est très simple à recycler. Et donc si on le récupère, à partir de ces vieux jeans, on fait un fil neuf et on refait un jean neuf avec.
Allez, on va continuer à discuter de toutes ces métamorphoses possibles du capitalisme. Thomas Huriez, bien sûr, comme Marie-Monique Robin. Vous restez avec nous jusqu'à 10h. Émission spéciale ce samedi, l'écho dans les livres, les BD, les films et les docus, puisqu'on vous dit qu'elle ne s'arrête pas.
This is all wrong.
Ce n'est pas normal.
I shouldn't be up here.
Je ne devrais pas être ici.
I should be
Je devrais
back
être
school,
en classe,
on the other side of the
de l'autre côté de l'océan.
Yet,
et pourtant,
you all come to us
vous venez
young
tous
people
nous demander d'espérer, à nous les jeunes.
How dare you?
Comment osez-vous?
People are suffering.
Des gens souffrent.
People are dying.
Des gens meurent.
Entire ecosystems
et des écosystèmes s'écroulent.
We are in the beginning of a
nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous nous parlez, c'est d'argent et de contes de fées racontant une croissance économique éternelle.
How dare you?
Comment osez-vous?
Évidemment, Greta Thunberg à l'ONU, personnalité de l'année, cette adolescente pour le magazine Time. Le changement climatique, le réchauffement, c'est un défi pour le système de production économique. Christian Emmanuel, à part Thomas Huriez et Marie-Monique Robin, nos invités, qui avez-vous lu qui pourrait nous apporter des solutions? Emmanuel.
Moi, il y a deux livres. Je vais laisser Christian en présenter un, parce qu'il y en a quand même eu énormément. Il y a une littérature surabondante sur le sujet. Moi, je pense qu'il y en a deux qui sortent du lot cette année. Il y a le livre de Christian Depertuis qui s'appelle « Le tic-tac de l'horloge climatique » chez De Bock Supérieur, que je vais laisser Christian présenter. Et puis, il y a quand même celui aussi de Christian Gaulier, « Le climat après la fin du mois ». C'est sorti avant, hein, c'est sorti au printemps, avant le Christian Depertuis. Mais Christian Gaulier, c'est un des meilleurs économistes au monde, spécialiste du sujet. Hein. Il est directeur général de l'école d'économie Toulouse avec Tirol. Il a écrit beaucoup pour les rapports du GIEC. Il est président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Donc, en gros, il nous dit chirurgicalement pourquoi le combat contre le changement climatique progresse aussi peu. Et donc, il démonte tous les ressorts de ce refus, finalement, ou de ces non-incitations à s'engager véritablement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et il est très focalisé comme solution sur la taxe carbone, Christian Gaulier.
Oui, son sujet, c'est il va falloir vraiment se décider à s'auto-infliger un choc pétrolier.
En gros, il n'y a que deux façons dans la vie d'impacter le comportement des consommateurs, c'est la dictature et c'est les prix. Voilà. Et donc, si on n'intègre pas dans les prix une taxe carbone, on ne changera pas le comportement des consommateurs. Donc, il a vous apprendrez plein de choses sur des chiffres, sur des histoires. Il est focalisé sur cette solution qui, économiquement, est assez imparable dans la démonstration. Par contre, la grande faiblesse, c'est que politiquement, comment on fait pour convaincre tout le monde de mettre cette solution en place? L'avantage du livre de Christian Depertuis, c'est qu'il propose plus de solutions. La palette des solutions proposées est plus large.
Christian Chavagneux, Christian Depertuis.
Le tic-tac de l'horloge climatique, pourquoi? Parce que pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il nous reste 20 ans. Et le GIEC nous a dit qu'il valait mieux viser 1,5 degré, et il nous reste 10 ans. Donc c'est vraiment le tic-tac. On a 10 ans pour essayer vraiment de lutter contre ce réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut atteindre maintenant ce qu'on appelle la neutralité carbone? C'est-à-dire qu'on n'émet pas plus que ce que la Terre est capable d'intégrer comme CO2. Alors effectivement, Emmanuel l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Il ne croit pas au marché, parce que Christian Gaulier, il croit quand même fondamentalement que l'économie de marché, ça fonctionne, et que si on utilise le prix, par exemple, et on va réussir à lutter contre le réchauffement climatique. Non, ça marche pas, nous dit Christian Depertuis. Alors, on peut faire de la compensation individuelle. En gros, je prends l'avion et je plante un arbre. Ça, on va mettre peut-être un petit peu de temps quand même avant d'y arriver. Il y a les techniques artificielles de captage du CO2, parce que on a les océans, et puis on a les plantes qui captent naturellement le CO2. Sauf que les océans, on en a fait des garde-manger et des poubelles, donc on réduit la capacité à capter le CO2, tandis que pour les plantes, avec la déforestation aussi. Donc, il y a des ingénieurs qui inventent des méthodes artificielles. Ils disent ça, c'est vraiment un mirage technologique, on n'y arrivera pas. Donc les deux pistes à suivre, c'est le développement des énergies renouvelables, et ça tombe bien parce qu'il nous montre qu'elles sont de moins en moins chères, et de l'autre côté, c'est l'agroécologie, parce que quand même l'agriculture, ça pousse beaucoup aujourd'hui encore aux émissions de CO2. Et toute la fin du livre, c'est ok, il y a des choses globales, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la France? Alors, Make Our Planet Great Again dit ça, c'est super pour faire le choix international, mais c'est pas ça qui fait bouger les gens. Ce qu'il faut pour faire bouger les gens, c'est une information la plus locale possible sur les effets du réchauffement, comme le fait par exemple la région Poitou-Charentes, et là on voit que les comportements changent.
Qu'est-ce que c'est une information la plus...
Ça veut dire que vous prenez le réchauffement climatique et vous dites concrètement à 20 km de chez vous, voilà ce que ça va avoir comme effet. Et là, les gens se mobilisent plutôt que de faire des grands shows à l'américaine, comme le fait le président qui est critiqué indirectement dans le livre. Il nous dit malheureusement, même si aujourd'hui on a une bonne politique de lutte contre le réchauffement climatique, avec tout ce qu'on a déjà émis, le stock, on sera toujours en retard. Donc attention à ce sentiment de pessimisme qui fait qu'on a l'impression de toujours courir après, mais c'est, on peut le faire. Mais attention, le tic-tac a commencé, il ne nous reste plus que 10 ans.
Le tic-tac de l'horloge climatique.
Ouais, toujours la proximité, hein, important dans l'efficacité
toujours la proximité.
Des solutions. Et puis
de Christian Depertuis.
Pour Christian Depertuis, et puis quand même, le message des deux, et surtout peut-être de Christian Gaulier plus que de Christian Depertuis, c'est de dire, attendez, concrètement, cette transition écologique, ce ne sera pas un chemin pavé de rose. C'est-à-dire que tout ce monde merveilleux qu'on nous promet, plein de croissance, d'emploi, ce ne sera pas ça. Ça va être compliqué et il va falloir...
Mais c'est possible.
Mais il va falloir effectivement faire des efforts et changer nos comportements, et ça nous coûtera cher.
Et donc accompagner ceux qui ne pourront pas se permettre de changer leur comportement.
Absolument.
C'est ce qu'on a vu il y a un an. Donc le livre de Christian Gaulier, Le climat après la fin du mois, c'est aux éditions PUF. Ça a enchanté Emmanuel Le Chypre. Et puis l'ouvrage de l'économiste Christian Depertuis, Le tic-tac de l'horloge climatique, aux éditions De Beuck, avec une préface du climatologue Jean Jouzel. Ça, c'est la recommandation de Christian Chavagneux, avec un autre livre, Christian.
Oui.
Si on parle toujours de l'écologie, c'est le livre de la juriste Judith Rochefeld, dans une émission d'économie. Vous allez me dire pourquoi. Comment il s'appelle d'abord?
Utile pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne. La juriste, elle nous dit quoi? Elle nous dit, regardez, de plus en plus de citoyens avec des ONG se mobilisent pour porter plainte contre les États et contre les entreprises parce qu'il y a l'accord de Paris depuis 2015 et les gouvernements ne font pas assez pour aller dans le sens de politique de réchauffement climatique. Elle nous dit, généralement, ils perdent, sauf que ça mobilise beaucoup de gens et donc il y a une information qui se diffuse, mais on commence à voir des choses assez bizarres. Enfin, vous avez ce guide péruvien qui est vraiment au Pérou, il a un glacier au-dessus de son village et il a attaqué l'entreprise allemande RWE, donc en Allemagne, alors qu'il est au Pérou, en disant « Vous contribuez au réchauffement climatique. Les scientifiques me disent que tant de pourcents du charbon que vous utilisez vient sur mon glacier, le fait fondre, va détruire mon village. Le coût est estimé à 17 000 euros. Vous me devez 17 000 euros. » Et la justice allemande a dit « La plainte est recevable. » Et on attend la solution. Donc il y a plein comme ça de plaintes en justice contre les États, contre les entreprises. On attend de voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment un livre où on découvre plein de choses passionnantes.
Ça s'appelle « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne » de la juriste Judith Rochefeld et c'est publié chez Odile Jacob. Alors, le capitalisme plus vert, ok, mais où va-t-il ? Dans cette émission, on a quelqu'un qu'on cite en fait tous les ans, parce qu'il produit à peu près un livre tous les ans, c'est Pierre-Yves Gomez. Que nous dit Pierre-Yves Gomez, Sandrine Foulon, dans ce livre, L'esprit malin du capitalisme, aux éditions d'Esclé de Brouwer ?
Oui, alors vous avez raison, il creuse le sillon de travail invisible, d'intelligence du travail. Je devance un peu ce que va dire Emmanuel. Alors, c'est pas un économiste de solution. Pour ça, il faut lire Piketty, hein, Capital et idéologie. Là, vous avez des milliers de pages de solutions. Là, moi, ce qui m'a intéressé cette année, c'est que il a une réflexion quasi philosophique. Il dit, en gros, il faut arrêter de faire la collapsologie, c'est-à-dire de se dire, puisque tout est foutu, autant rien faire. Si l'homme est un loup pour l'homme, un loup pour le loup, un loup pour la planète, de toute façon, on n'agit plus, on fait rien. Et il justifie ce qu'on appelle le capitalisme spéculatif. C'est-à-dire, si on croit en permanence que l'avenir radieux, c'est plus de croissance, plus d'emplois, un monde où on spécule, en fait, on est tous des micro-capitalistes avec notre logement, avec notre vie, ben, en fait, on n'en sort pas. Et lui, il dit, il faut sortir du cadre. En gros, il faut penser autrement. Et c'est là qu'est un peu la solution. Alors, c'est pas une solution technique, mais en tout cas, ça passe par les solidarités, ça passe par le goût de l'utile, ça passe par le goût du travail bien fait, par les contournements aussi. On voit bien qu'à l'hôpital, par exemple, si on respecte toutes les normes, si on respecte toutes les consignes, ben, on n'arrivera pas à soigner les gens. Donc, en fait, la solution de Pierre-Yves Gomez, que j'ai trouvée assez intéressante, c'est celle-là. C'est de dire, pensons autrement et arrêtons les croyances d'un monde capitalisme radieux.
Thomas Huriez, ça vous parle, ça, peut-être, sur cette transformation du capitalisme? Voilà, c'est de l'audace. Pensons autrement, c'est aussi le défi, l'aventure.
Oui, je crois, et je conclue, moi, mon livre sur la notion de proximité. C'est vraiment la clé. Quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, en fait, c'est plus fort que nous. De manière irrationnelle, émotionnelle, on agit mieux. Parce qu'en fait, si on était des êtres rationnels, eh ben, on saurait, en lisant sur un paquet de cigarettes, que fumais-tu, que ça tue, et donc on arrêterait de fumer. Pour autant, on le fait pas. Et du coup, si on le fait pas, c'est pour des raisons, à mon sens, plus irrationnelles et émotionnelles que rationnelles. Et il me semble que la proximité, c'est le levier émotionnel le plus puissant qui puisse permettre de changer le monde, ben, avec les gens, avec tout le monde.
Et qui puisse, alors après, toujours avec la problématique, quand même, moi je trouve, mais du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que irrationnel, l'empathie, etc. Oui, Thomas?
Alors oui et non. Par exemple, on parle souvent du problème des vêtements, du prix des vêtements. C'est intéressant de constater qu'effectivement, le prix des vêtements a diminué. Mais le budget moyen consacré par les Français à la mode n'a pas diminué. Donc en fait, c'est juste qu'on achète plus de vêtements, mais c'est un peu de la merde. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est acheter moins mais mieux. Et à budget constant, on progresse ainsi.
Emmanuel Le Chibou, le Pierre-Yves Gomez, ça vous a déçu ?
Alors, je trouve qu'il y a deux parties dans le livre. Hein. Il y a vraiment une partie où il refait un petit peu l'histoire du capitalisme financier, que je trouve assez convenu, finalement, pour nous décrire les dérives de cette finance qui était finalement le moyen et qui est devenue la fin. Et le rapport qu'il fait avec la digitalisation, c'est qu'il dit exactement la même chose. Il dit la digitalisation, c'était un moyen et c'est devenu la fin. Par contre, effectivement, toute l'analyse qu'il fait sur ce nouveau monde du travail, elle est vraiment passionnante, hein, parce qu'il nous dit, finalement, la digitalisation, elle a un effet, elle revalorise tout ce qui est travail non professionnel. Et donc, du coup, chacun devient, finalement, un micro-capitaliste, et ça nous emmène vers une forme d'individualisme radical où il faut finalement la meilleure prime, la meilleure place. Il cite René Girard, hein, il dit le désir mimétique s'installe, la mesure du désir n'est plus l'objet lui-même, mais le désir que l'autre a du même objet. Et donc, il raconte toute cette transformation du travail et ce rôle, finalement, cette revalorisation du travail avec des gens qui ont les mêmes outils que dans les entreprises aujourd'hui, hein, pour travailler chez eux, des ordinateurs, etc. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est cette description-là. C'est pas l'aspect c'est bien, c'est pas bien, le capitalisme, gna gna gna, pas l'aspect moral, mais l'aspect vraiment description chirurgicale.
Et très court, Christian Chavagneux, si vous voulez bien, sur le capitalisme, on va aussi citer deux monuments, deux économistes, vous les appelez vous les monuments. On va juste donner leur livre parce que ça, vous vouliez les mettre dans cette liste de Noël.
Ben oui, Michel Aglietta, un des plus grands économistes français, capitalisme, le temps des ruptures, chez Odile Jacob, il a coordonné, hein, il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent quoi ? La finance a pris le pas sur l'économie et donc la finance, c'est elle qui détermine l'avenir du capitalisme. Toute l'analyse, et ça finit par un livre, enfin un article magnifique de Michel Aglietta qui repense la justice sociale, qui nous donne le schéma pour une croissance inclusive et qui met l'environnement au cœur, magnifique. Et puis Pascal Salin, le vrai libéralisme, droite et gauche unis dans l'erreur, rien à voir. J'adore Pascal Salin, j'ai été son élève. Il y a deux Pascal Salin, malheureusement, la base est la même, c'est un ultralibéral, mais il y en a un qui fait des réflexions économiques avec des bouquins très profonds, et puis l'autre qui fait juste de l'agitprop dans le Figaro. Et malheureusement, ce livre-là, c'est juste les articles d'agitprop. Souvent, c'est vraiment n'importe quoi.
Mais vous vouliez le citer quand même. Les deux livres sont chez Odile Jacob.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
C'est presque la fin de cette émission. On va arriver à notre moment où on partage nos coups de cœur. On va demander à nos invités d'abord. Marie-Monique Robin, votre ou vos coups de cœur ?
Alors moi, deux bouquins que j'ai... Ben voilà. L'un, c'est La conversion de Guillaume Portail, comment l'homme le plus riche du monde s'en est pris au capitalisme, de Bertrand Meyeus, qui est un philosophe. Et alors évidemment, il imagine que Monsieur Bill Gates investit son énorme fortune, je sais plus où on en est, 107 milliards de dollars, pour encourager la transition écologique, enfin voilà, j'en dis pas plus, et qui se convertit, parce qu'il y a quand même là... À un moment, il découvre à Davos qu'on va, on va dans le mur. Quoi. Alors, voilà, évidemment, c'est une uchronie, mais moi, je trouve que c'est bien de se projeter dans le futur. Quoi, voilà. Et puis, l'autre bouquin que j'aime beaucoup, c'est de tout autre ordre, mais ça concerne l'écologie aussi, c'est Geneviève Azam, économiste aussi, qui était à Attaque, qui est toujours à Attaque d'ailleurs, qui a écrit une lettre à la Terre, que je trouve très jolie, parce que c'est, qui écrit à notre maison commune, il y a un dialogue, et voilà, qui raconte comment nous dépendons de cette maison commune, et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que sans maison commune, eh bien, nous sommes tous, nous allons disparaître, quoi, voilà. Et, mais c'est très poétique, et en même temps, très, elle rappelle tous les forfaits, tout ce que nous avons commis contre cette maison commune.
Sans
voilà.
Savoir, peut-être.
Oui, bah oui, bien sûr. Mais n'empêche qu'il sait bien de le rappeler, mais en même temps, de rappeler notre attachement à cette terre, hein, voilà. Pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, quoi. C'est ça l'idée.
Thomas Huriez, vous, si vous aviez un conseil pour cette fin d'année.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est pas un livre, c'est un lieu. C'est la Cité de la Chaussure, chez moi, à Romans. ce lieu, en fait, c'est un ancien supermarché désaffecté, en centre-ville, qui était plus utilisé, et dans lequel se sont rassemblés quatre ateliers de fabrication de chaussures, au milieu duquel il y a un magasin d'usine de ces chaussures fabriquées localement. Et donc, je trouve que transformer un supermarché en atelier de production qui vend sa propre production sur place en centre-ville, c'est vraiment l'avenir.
À Romans, sur Isère. Christian Chavagneux, c'est le plus gourmand de notre famille. Alors allez-y.
Je vais, allez, je vous fais la liste.
Ouais,
Le manuel indocile des sciences sociales. Manuel parce que c'est très pédago. Sciences économiques, sciences politiques, sociologie. Indocile pourquoi ? Tout ce que l'université produit contre la vulgate libérale dans les trois champs. Absolument magnifique. Didier Daninx, le roman noir de l'histoire chez Verdier. Là, c'est des nouvelles de 1870 à 2030 pour nous expliquer la société française. Et vous allez comprendre que occuper un emploi, ça peut avoir un sens un peu particulier. Romain Bertrand, il a dirigé un ouvrage sur l'exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes au seuil. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Il y a des voyageurs absolument magnifiques de partout dans le monde qui commencent des siècles auparavant. Et je peux pas terminer sans parler de Pierre Cerna.
Ah, ça, celui-là, vous nous en avez parlé combien de fois?
L'historien Pierre Cerna, Que demande le peuple? C'est la reprise des cahiers de doléances publiés, enfin, que les Français, essentiellement pas les Français, pas les Françaises, ont écrit en mars-avril 1789. Il y a à chaque fois ces thématiques. Il y a une introduction de Pierre Cerna qui est lumineuse. Il y a des extraits des cahiers de doléances qui, c'est vraiment incroyable de lire ça. On a l'impression de lire les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est exactement les mêmes revendications. Et il y a une iconographie extrêmement riche, et généralement les iconographies sont riches mais pas pertinentes. Là en plus, elle est pertinente, c'est le livre de cadeau à offrir.
Sandrine Foulon, est-ce que vous avez un aussi gros coup de cœur ?
Oui, j'ai un très gros coup de cœur, je ne dis pas souvent, mais j'ai adoré. Ça s'appelle « Ce qui reste » du sociologue Benoît Coquart à la découverte. Le sous-titre pourrait faire fuir Emmanuel, ça s'appelle « Faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Mais alors c'est tout, sauf Misérabilis, c'est une longue enquête très fine qui commence en 2010, qui se poursuit avec les gilets jaunes. C'est pas non plus angélique, on parle de la place des femmes qui est pas formidable, de la tentation de l'extrême droite, on parle de ces zones dans le Grand Est où tout est parti, l'emploi, les industries, où ceux qui ont le capital scolaire, eux, ils peuvent partir. Mais lui, Benoît Coquart, il s'intéresse à ceux qui restent, à ceux qui redoutent plus que tout la mauvaise réputation, qui constituent des bandes de potes sur qui on peut vraiment compter, qui veulent faire partie du processus démocratique. C'est vraiment formidable pour éviter tous les clichés sur la France France périphérique qui n'existe pas, il faut le rappeler. Évidemment, si vous avez encore de la place sous le sapin, il faut lire.
Ça y est, c'est fait le sapin, mais si on veut offrir quelque chose à quelqu'un pour la nouvelle année,
on garde encore un peu. Et en fait, il y a deux livres formidables, évidemment, d'Alain Supiot, grand juriste, qui a écrit Le travail n'est pas une marchandise aux éditions du Collège de France et La force d'une idée aux éditions Les liens qui libèrent. C'est brillant, comme d'habitude, et ça aide à comprendre les crises sociales, technologiques et écologiques que nous vivons. Voilà. Et en fait, on parlait de BD. Deux romans graphiques très bons, vraiment qu'il faut lire, c'est Les algues vertes d'Inès Leroux et Pierre Van Hove chez Delcourt sur les scandales des algues toxiques en Bretagne, et Vérax, très bon roman graphique de Pratap Chatterjee, le journaliste qui écrit au Financial Times, et Khalil sur les lanceurs d'alerte aux États-Unis qui dénoncent la surveillance de masse, les drones, après le 11 septembre.
Emmanuel Le Chip, vous qui n'avez pas les ouvrages misérabilistes, vous nous avez sélectionné quoi ?
Bah, des ouvrages pas misérabilistes.
Voilà.
Continuons sur l'intelligence artificielle, parce que franchement, c'est rendre service à nos auditeurs que de sélectionner parmi la flopée de bouquins sur le sujet. Il y a quand même un bouquin qui se dégage, c'est le bouquin de Kai Fu Lee, qui a l'avantage d'être à la fois chinois et américain, et qui lui nous dit, grosso modo, pour faire simple, la Chine a déjà gagné la bataille de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle La plus grande mutation de l'histoire, c'est aux arènes. J'ai beaucoup aimé aussi tous les livres de nouvelles générations autour de l'intelligence artificielle qui nous racontent pas seulement l'intelligence artificielle mais toutes ses conséquences sociales sur la liberté, la démocratie, etc. Il y avait le bouquin de Gaspard Koenig qui était très bien, et puis il y a celui de Philippe Delmas, Un pouvoir implacable et doux, qui nous montre à quel point la révolution numérique est différente de la révolution industrielle qui nous avait apporté la démocratie, une organisation
sociale. Ah oui, là c'est carrément inquiétant
nouvelle,
pour la démocratie.
Fondée sur la classe moyenne, la désindividualisation de la société, et bien c'est tout le contraire que nous propose la révolution technologique. Je reprends la balle au bon sur les campagnes, avec une réédition du livre de Pierre-Noël Giraud, L'inégalité du monde, où il montre bien que le vrai clivage aujourd'hui, il est entre les sédentaires et les gens qui sont mobiles, les nomades. Et puis je termine avec un livre super drôle et super fin, c'est le livre de Julia de Funès, Développement impersonnel, qui est une diatribe, mais qui est un livre très très drôle contre les coachs, contre tous les bouquins de développement personnel. Et pourquoi a-t-on besoin de tous ces bouquins ? Pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de se sentir performant?
Bah, on en a
c'est
besoin.
Une philosophe, hein. C'est un livre sérieux, mais alors on se régale parce qu'on reconnaît tous nos amis et on se reconnaît soi-même aussi.
Alors,
dans cette quête de la performance.
Je signale aussi que le livre Sacrée Croissance, signé par notre invitée Marie-Monique Robin, est paru en poche cette année. C'est aux éditions de La Découverte. Et puis pour terminer, vous allez avoir droit à mon coup de cœur à moi. Il va falloir attendre encore une bonne quinzaine de jours. C'est un recueil d'histoires cruelles. Comment des hommes et des femmes à peu près aussi bêtes que nous, ou en tout cas pas plus bêtes que nous, se font avoir par des escrocs. Ça part du collier de la reine et ça va jusqu'à Bernard Madoff. Mais surtout, bien sûr, ça démarre par une histoire de marin marseillais. Chaque chapitre, mais oui, marseillais. Chaque chapitre démarre comme est présenté comme une enquête de Colombo. Bref, c'est aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Les plus belles histoires de l'escroquerie. Ça paraît le 16 janvier. C'est signé Christian Chavagneux. Et voilà, c'est terminé cette émission spéciale de fin d'année. Toutes les références se retrouvent sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Pour nous réécouter, abonnez-vous au podcast On n'arrête pas l'écho, bien sûr. Le Mag'Écho baisse le rideau et toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. Christian Chavagneux, Sandrine Foulon, Emmanuel Le Chypre, Valentin Pérez, Coyen Guyen, mais aussi Annaëlle Verzo, Caroline Pommès, Claire Chaudière, Hélène Philly, Fabien Cazot, Yves Decamp et Manuel Ruffez. Et on dit un grand merci à nos deux invités, Marie-Monique Robin et Thomas Huriez. Un petit peu en avance, on vous souhaite une bonne année.
On n'arrête pas l'écho avec Préfonds Retraite. Découvrez maintenant tous les nouveaux avantages du PER Préfonds Retraite sur préfonds-retraite.fr.